déclencheur. Tuto.
Salut Gilles.
Salut Benoît, ça va?
Ça va et toi, qu'est-ce que tu fais de beau?
Bah écoute, je suis en train de faire un petit peu le tour des forums sur Internet pour voir si les téléchargements et les installations de Lightroom 2 se passent bien. Et puis bon, a priori, il n'y a pas beaucoup de retours négatifs, donc
ça démarre bien.
C'est assez calme et ça démarre plutôt bien, oui, effectivement.
Donc Gilles Théophile, tu es, on le rappelle, l'animateur de utiliserlightroom.fr. Tu es aussi maintenant l'auteur d'un e-book chez Erol. Donc un e-book, c'est un livre à télécharger sur justement la toute nouvelle version de Lightroom qui vient de sortir. C'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Ok, alors Lightroom 2, bah, il vient de sortir. Selon toi, quelles sont les principales nouveautés? Quelles sont les choses qui t'ont vraiment intéressé dans Lightroom 2?
Alors Lightroom 2, c'est vraiment une très grosse mise à jour. Hein. Donc on peut souligner en particulier, bien entendu, les outils de retouche locale. Basé sur un pinceau de réglage et des masques. Donc je crois que c'est un système qui ne déroutera pas, par exemple, les utilisateurs de Photoshop. On peut également parler d'un réagencement du module bibliothèque, notamment pour organiser les métadonnées et les mots-clés. Il y a également la possibilité maintenant d'afficher Lightroom sur deux écrans. Et on a beaucoup de petites choses à côté, comme par exemple l'exploitation de systèmes 64 bits, comme macOS 10 par exemple. Hein. Donc ça permet de mieux gérer l'utilisation de la mémoire vive. Et on a également des nouvelles options d'exportation, par exemple au niveau accentuation. Non, il y a vraiment beaucoup de progrès qui ont été faits. Et l'avantage, c'est que l'architecture reste à peu près la même et que ça ne changera pas les habitudes des utilisateurs de Lightroom 1.
Justement, pour toi, cette nouvelle version, elle s'adresse plutôt en priorité aux utilisateurs actuels de Lightroom 1 ou c'est pour ouvrir le champ et permettre à tous les gens qui s'étaient dit « Tiens, ben Lightroom, ça me convient pas, ça me suffit pas », d'y trouver un outil plus utile.
Écoute, je pense que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Hein. Donc c'est un outil qui est vraiment conçu pour le photographe de A à Z. Et je pense que l'adjonction de ces nouveaux outils, effectivement, permet vraiment de préparer, de traiter, de développer ces images sans être obligé d'utiliser un logiciel comme Photoshop. Hein, mais la possibilité d'utiliser ce dernier pour faire des retouches beaucoup plus pointues, par exemple, est toujours possible, bien évidemment. Alors je dis oui, c'est un logiciel qui est plutôt orienté professionnel et amateur expert, mais dans tous les cas de figure, qu'on vienne de la version 1 ou qu'on ne connaisse pas Lightroom, je pense que c'est un outil tout à fait complet qui peut satisfaire et couvrir beaucoup de besoins.
C'est clair que les traitements locaux, moi, c'est la fonction que j'attendais. Avec Lightroom 1, je me suis rendu compte que à peu près 70% de mes photos devaient de toute façon être envoyées dans Photoshop pour faire des traitements locaux. Et ici, en final, il en reste encore un petit pourcentage qui doivent y passer, mais ça devient la logique qu'ils avaient annoncée au début. C'est-à-dire on peut vraiment développer le gros d'une séance photo en restant dans le logiciel, quoi.
Oui, tout à fait. Puis ce qu'il faut également souligner, c'est que le concept des outils de retouche locale de Lightroom 2 s'inscrit dans un flux de production entièrement en RAW et entièrement non destructif. Hein, donc toutes les corrections qui sont faites à ce niveau continuent à être inscrites dans des petits fichiers annexes. Hein, et donc évidemment tout est totalement réversible et on reste vraiment dans un flux en fichier RAW, c'est-à-dire que contrairement à certains autres logiciels, on ne génère pas un fichier bitmap en TIFF par exemple à l'extérieur pour faire de la retouche locale et ensuite pour revenir dans le logiciel principal. Là, on reste vraiment totalement dans Lightroom de A à Z.
Tu parlais d'outils pour les pros ou pour les semi-pros. Et une des choses que je lisais en parcourant un petit peu les informations disponibles pour la nouvelle version, c'est qu'ils ont intégré cette gestion de profil maintenant. Et la personne d'Adobe qui l'expliquait disait « Mais en fait, ça rend Lightroom plus accessible parce qu'une des questions que les gens ont, c'est « Tiens, Lightroom n'a pas le même rendu que mon boîtier. Donc, est-ce qu'il y a une erreur, etc. » Et là, si j'ai bien compris, cet outil va leur permettre d'avoir un rendu qui sera plus familier pour des débutants.
Alors effectivement, ce nouvel outil ouvre quand même des perspectives extrêmement intéressantes, hein, que ce soit pour les pros comme pour les amateurs experts, hein, tout simplement. La grosse critique que les gens faisaient sur la colorimétrie de Camera Raw et de Lightroom, c'est effectivement un rendu qui ne correspondait pas toujours à ce qu'ils voyaient au niveau de leur boîtier. Il faut savoir une chose, c'est que le moteur de développement de Camera Raw et de Lightroom, qui est le même, hein, évidemment, ne se base pas sur des informations communiquées par le fabricant de l'appareil photo. Donc en fait, l'équipe de Camera Raw développe tout simplement sa propre colorimétrie en créant des profils boîtiers. On retrouve un petit peu en fait la différence entre les différents types de films argentiques. Dans le passé, des photographes préféraient par exemple le rendu Fuji, d'autres préféraient le rendu Kodak. Et là, on est exactement dans la même situation. Des gens aiment bien le rendu Camera Raw pour certains types d'images, mais préfèrent quand même les couleurs de Canon DPP par exemple, ou de Capture NX pour les boîtiers Nikon. Alors effectivement, maintenant avec ce nouvel éditeur de profil d'Adobe, on va pouvoir utiliser des profils à l'intérieur de Lightroom et de Camera Raw qui simulent parfaitement la colorimétrie des solutions des fabricants d'appareils photo. Mais également, on va avoir la possibilité de développer des profils. Par exemple, si un photographe possède deux appareils photo différents, y compris de marques différentes d'ailleurs, hein, il va pouvoir créer un profil qui permette d'harmoniser les couleurs entre les deux appareils.
C'est un petit peu, ça rejoint un peu ce que Frédéric Guichard de DxO nous avait expliqué il y a quelque temps en disant on a, sur DxO, ils avaient paramétré les différents boîtiers et on pouvait du coup prendre un Nikon, avoir un rendu Canon ou des choses pareilles en fonction des... Ils faisaient la même analogie par rapport au film. Une autre question sur les nouveautés. Moi, j'ai vu qu'il y avait une gestion maintenant multidisque. Je n'ai pas encore vraiment eu le temps de l'explorer, mais est-ce qu'à ton avis, ça peut être utilisé pour gérer des disques de sauvegarde, c'est-à-dire une copie de l'image sur un autre disque qu'on ne garde pas en ligne en permanence ? Ou des CD ou des choses pareilles.
Écoute, pour l'instant, ce que tu appelles la gestion multidisque, c'est tout simplement un explorateur de volume qui apparaît dans le module bibliothèque, qui permet vraiment de bien localiser ces différents dossiers situés par exemple sur plusieurs disques durs externes. Ce système est là pour gérer la bibliothèque de Lightroom, mais n'est pas là pour gérer des copies de sauvegarde. Lorsqu'on importe des images dans Lightroom, on peut effectivement créer à la volée une copie de sauvegarde sur un autre volume, mais ces copies, ce sont simplement des images et elles ne seront pas directement gérées par Lightroom. Donc ça ouvre effectivement pour l'avenir des perspectives, parce que je sais qu'il y a de la demande dans ce sens, et il y a également de la demande pour pouvoir utiliser Lightroom en poste multi-utilisateur, ou alors sur des disques en réseau, ce qui n'est pas encore possible.
Pour toi, qu'est-ce qui manque dans Lightroom 2 ?
Ce qui manque dans Lightroom 2, je dirais essentiellement peut-être au niveau de l'impression, l'épreuvage, hein, le soft proofing. Je pense qu'il manque effectivement la possibilité d'utilisation simultanée par plusieurs opérateurs. Je pense que ça peut intéresser notamment les petites structures, les photographes professionnels qui ont un studio avec deux ou trois employés qui gèrent les images. Je pense que ça pourrait être intéressant. Maintenant, est-ce que la structure actuelle de Lightroom permet d'intégrer ce genre de fonction sans bouleverser le logiciel lui-même ? Ça, je ne sais pas.
Ok, on retient, si on veut aller plus loin dans Lightroom 2, qu'un e-book est maintenant disponible, donc un livre à télécharger. Ce qui est bien, c'est que ça permet de le sortir tout de suite après la sortie de Lightroom. Il n'y a pas les délais d'impression.
Oui, c'est un petit peu le but, hein. Donc dans ce livre, on ne parle en fait que des nouveaux outils de Lightroom 2.0 et un petit peu de son environnement de travail, c'est-à-dire des relations avec certaines autres applications extérieures. Donc ce n'est pas un panorama complet de Lightroom, c'est vraiment les nouveaux outils, les nouvelles fonctions.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Gilles, et à bientôt peut-être.
Bah écoute, je te remercie aussi Benoît, et puis bah, à bientôt peut-être pour Lightroom 3.
Voilà, salut, merci.
Merci.